Bah, la chaleur étant forte à l'extérieur, je pense que ça a dû en décourager quelques-uns. On le vérifie un peu partout dans les activités, d'ailleurs, je crois. J'ai écouté hier, je ne sais plus dans quel endroit où ça a déserté complètement. Bon, bref, on ne va pas théoriser sur la chaleur. Bonjour à toutes et à tous, d'abord. Et puis je vais demander, pour commencer, puisque le thème, c'est musique, créativité, territoire, à Laure Mallet, qui était, à l'époque où je l'ai rencontrée, sur Châtellerault. Elle nous dira ce qu'elle a fait depuis. Et elle a œuvré, d'ailleurs, avec CDA Développement sur la réalisation d'un concert de musique classique dans l'entreprise, mais elle nous en parlera. Donc, Laure, vous avez le micro. Et à vous.
Donc, bonjour, je suis coordinatrice d'une association qui s'appelle les Jeunesses Musicales de France, donc association de diffusion musicale sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai été également chargée de production pour une autre association qui s'appelle le Festival Automne Musical. Ces deux associations ont leur bureau physique sur la ville de Châtellerault. Et donc, cette situation géographique m'a permis de développer des projets associant et musique et entreprise. Alors, excusez-moi, j'espère. Je vais vous mettre quelque chose de un peu propre. Voilà, là, c'est juste pour vous resituer un petit peu les entreprises dans lesquelles... dans lesquelles je travaille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que nous avons menée avec l'entreprise CDA Développement, qui est située sur le territoire de Châtellerault. C'est une entreprise industrielle spécialisée dans la plasturgie. En qualité de chargée de production du Festival Automne Musical sur Grand Châtellerault, je devais aller à la rencontre des entreprises du territoire pour faire des recherches en mécénat financier principalement. Par ce biais-là, j'ai assisté à une visite d'entreprise, une visite créative d'entreprise, ce qui m'a permis de rencontrer et d'échanger avec ce chef d'entreprise quelque peu atypique et ouverte à l'innovation qu'est Jean-Marc Neveu. Et de cette rencontre, nous avons imaginé ensemble un partenariat qui dépassait le simple cadre du mécénat associatif, mécénat culturel. Donc notre partenariat a commencé en novembre 2017. Au sein de l'entreprise CDA Développement, nous avons installé un concert de musique classique dans l'entreprise. Concert de musique classique, pas avec n'importe quel musicien, c'est-à-dire l'élite des musiques classiques françaises, des élèves du Conservatoire national de musique et danse de Paris. Donc ce sont des populations qui sont très peu habituées à ce genre d'expérience. Ce sont des jeunes musiciens qui ont plutôt l'habitude de se produire dans les plus grandes salles du monde entier. Donc déjà par là, c'était un petit peu innovant dans la démarche de leur demander de faire un concert dans une entreprise, et d'autant plus dans une entreprise industrielle de plasturgie. Donc l'idée était aussi, pour Jean-Marc Neveu, de faire découvrir une association culturelle du territoire, de montrer que l'entreprise, c'est aussi un lieu de culture, et d'ouvrir ce personnel, ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients, fournisseurs, aussi à un autre univers, et un univers qui est un petit peu particulier dans son environnement, c'est-à-dire les musiques classiques. Souvent on dit « le classique, moi j'aime pas », mais au final, quand on écoute vraiment, ça j'aime. Donc voilà. Donc nous avons organisé ensemble cet événement, ce concert de musique classique, comme vous le voyez sur les photos, vraiment au sein de l'entreprise. Nous avons délimité un lieu scénique, nous avons installé un petit peu de matériel lumière pour donner quand même un cadre de diffusion semi-professionnel. Et avec le directeur de l'entreprise, nous avons invité collaborateurs, fournisseurs et clients à assister à ce concert, à cette rencontre. bien sûr associé à ce temps de musique, de découverte musicale, toujours un temps de convivialité et d'échange, ce qui permet aussi un peu de désacraliser l'image que l'on peut avoir des musiques classiques. Donc j'avoue que ça a eu vraiment un beau succès. Il y a eu plus de 70 personnes qui étaient présentes à ce rendez-vous au sein de l'entreprise CDA Développement. Des personnes invitées par les chefs d'entreprise, mais aussi des personnes qui ont vu, quelques personnes qui ont vu passer cette information sur les réseaux sociaux ou sur les circuits de diffusion. Donc il faut savoir que le taux de remplissage chez nous des concerts de musique classique en milieu rural, on est plutôt sur des jauges à 30-50 personnes. Donc c'était une vraie victoire pour nous d'avoir réussi à mobiliser autant de personnes autour de cet événement. Mais le partenariat ne s'arrêtait pas là parce que l'idée était que ça soit que le partenariat entre l'association et l'entreprise soit ce que l'on peut dire gagnant-gagnant pour chacun d'entre nous. Les musiques classiques actuellement ont une grosse difficulté, cherchent à renouveler les publics. Donc c'est pour ça que nous allons à la rencontre des entreprises, du jeune public et dans des lieux un petit peu atypiques. Donc nous avons invité toutes les personnes qui étaient présentes au concert à l'intérieur de l'entreprise à venir voir un concert de musique classique dans le lieu culturel de la collectivité également, parce qu'on se rend compte que peu de gens ont la démarche de pousser la porte pour aller voir des musiques classiques dans un lieu culturel, et d'autant plus dans un lieu qui n'est pas forcément dédié aux musiques classiques. Donc nous avons invité l'ensemble du public de cet événement en entreprise à aller dans la salle de spectacle de Grand Châtellerault, la salle de Langelarde, à assister à un concert d'orchestre symphonique et d'autant plus l'orchestre du Conservatoire national de musique et danse de Paris. Voilà, donc pour l'entreprise, dans le cadre du partenariat, c'est aussi un bénéfice sur sa communication, car bien sûr, dans toute convention de mécénat, et de soutien financier, le logo de l'entreprise apparaît sur tous les documents de communication. Mais étant donné que cette entreprise avait précédemment mis en place une exposition de photographies de son personnel salarié, nous avons souhaité aller plus loin que dans la démarche simplement assister au concert. Nous avons valorisé cette exposition dans le hall d'accueil de la salle de spectacle. C'est-à-dire que l'ensemble du public qui assistait à ce concert, il y avait plus de 700 personnes dans la salle, ont pu découvrir aussi le travail dans cette entreprise châtellerodaise, l'ouverture de cette entreprise châtellerodaise au monde culturel, au monde de l'art, et que la transversalité entre la musique et l'industrie, les partenariats humains, économiques, et sociales sont possibles et valorisants pour les uns et les autres. Voilà, donc c'était vraiment un beau partenariat, une belle expérience qu'on a initiée sur cette entreprise. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu de renouvellement de cette pratique, d'une part parce que moi je ne travaille plus pour cette association de diffusion des musiques classiques sur le territoire de Grand Châtellerault, et voilà, le renouvellement, ça ne s'est pas fait. Mais au moins, cette expérience a eu lieu. On en a beaucoup parlé, pas seulement sur Châtellerault, sur Poitiers également, dans divers secteurs d'activité. Elle a eu la gageure de montrer qu'il était possible de se faire rencontrer et les musiques classiques et le monde industriel, de mettre en place une démarche partenariale qui soit gagnante pour les deux structures, associatives, culturelles et entreprises lucratives, qui soit aussi gagnante économiquement, parce qu'il y avait aussi un enjeu économique là-dessus, et en termes d'image et de notoriété, de lien social sur l'ensemble du territoire. Voilà rapidement une présentation de cette expérience quelque peu créative qui a eu lieu en novembre 2017 et février 2018 sur le territoire de Grand Châtellerault.
Ben, merci Laure pour cette exposé, mais peut-être pour élargir le propos, mais sans dévoiler forcément ce que vous avez fait. Vous avez mené une étude sur Châtellerault, peut-être en dire quelques mots, pas le résultat de l'étude, mais nous qui commençons, enfin moi depuis un petit peu de temps avec justement les visites créatives qu'on organise chez Jean-Marc, ça fait peut-être, on est peut-être rendu à 20-30 visites créatives, Moi, le constat que je peux faire, mais c'est brut de décoffrage comme ça, ça mériterait d'être analysé plus profondément, c'est la coupure, mais ce n'est pas propre à Châtellerault, c'est la coupure entre le monde culturel et le monde entrepreneurial châtellerodais sur un tissu et un bassin qui est quand même un bassin industriel de longue date, puisqu'on fête les 200 ans de la Manu cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, et à travers l'étude, et comment vous vous sentiez ça, puisque vous étiez sur Châtellerault, peut-être en quelques mots, hein, je ne vous demande pas de déflorer votre étude, mais peut-être en préciser un peu dans quel contexte ça s'est fait.
Voilà, donc dans le cadre d'une formation que j'ai reprise à l'IAE de Poitiers, je devais rédiger un mémoire. Et de par cette expérience-là, à partir de cette expérience-là, j'ai mené mon mémoire sur une étude de faisabilité sur la création d'un pôle territorial de coopération économique sur le territoire de Grand Châtellerault, un pôle territorial regroupement et entreprises lucratives et entreprises culturelles du territoire. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une étude des potentialités dans les deux secteurs d'activité. Bien sûr, mon étude était un petit peu plus poussée sur le domaine des associations culturelles sur le territoire de Grand Châtellerault. Le constat était que Châtellerault possède pléthore d'équipements culturels, pléthore d'activités culturelles, qui est sous-connue, méconnue, et du public local et des personnes extérieures. Mais aussi que les associations du secteur culturel avaient du mal à travailler entre elles, déjà. Un premier temps. C'est un constat historique. Moi, cela fait plus de 20 ans que je travaille dans ce secteur d'activité sur ce territoire. Et pour la première année, en 2016-2018, nous avons réussi à créer un projet fédérateur rassemblant l'ensemble des équipements culturels du territoire et deux associations culturelles du territoire. C'est la première fois que l'ensemble de ces équipements arrivaient à travailler ensemble. Donc voilà. Quant à rencontrer le monde de l'entreprise, historiquement, il y a deux gros festivals sur le Châtellerault qui fonctionnaient beaucoup sur du partenariat d'entreprise, mais un partenariat d'entreprise qui se limitait principalement à du mécénat financier et à quelques injonctions dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il y avait un ou deux musiciens qui venaient faire une petite prestation lors de la pause déjeuner dans la cantine de l'entreprise. Et l'entreprise, de par son mécénat, bénéficiait de gratuité pour assister au spectacle vivant. Mais il n'y avait pas eu de projet avec un fonds conséquent, un fonds qui allait au-delà de simplement « j'assiste à un spectacle ». L'entreprise donne de l'argent, donc mes collaborateurs, clients assistent à un spectacle gratuitement grâce à moi. Et puis voilà, cela s'arrêtait là. Donc voilà, donc j'ai l'idée de monter un pôle territorial de coopération économique sur ce territoire m'avait plutôt paru comme une évidence de permettre au sein d'un organisme de se faire rencontrer l'ensemble de ces acteurs. Parce qu'il y a un tel potentiel sur ce territoire, on a tous les outils nécessaires et suffisants pour vraiment monter de beaux projets, de partenariats et de se faire rencontrer et le monde de l'entreprise et le monde culturel. Et cette rencontre entre ces deux secteurs d'activité permettra évidemment le développement économique de l'un et de l'autre. Parce que le partenariat que nous avons monté avec CDA Développement, évidemment, l'association culturelle économiquement a eu un soutien financier. CDA Développement, de par son concert, cette innovation, cette créativité dans toute son activité fédératrice, a fait rayonner encore plus son entreprise sur le territoire. Pour exemple, lorsque j'étais en formation à l'IAE, le premier cours d'intelligence économique, l'enseignant, sans savoir que dans la salle, c'était moi qui avais organisé le concert, nous a montré comme exemple d'intelligence économique cette entreprise et cette expérience de concert en entreprise. Voilà, donc c'est vraiment des choses à approfondir et à travailler et dont le territoire de Grand Châtellerault possède toutes les potentialités.
Je pense d'ailleurs que cette dichotomie entre la culture et l'entreprise traverse toutes les actions qu'on peut essayer de mener dans tous les territoires. Et ça, c'est intéressant d'interroger Châtellerault peut-être comme terrain expérimental pour aller plus loin dans les autres territoires, parce qu'au fond, la difficulté, on la rencontre aussi, que ce soit à Thouars, à Loudun, à Saintes, puisqu'on a quelques territoires expérimentaux à suivre. Et donc cette question-là est évidemment récurrente et permanente. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques de votre part sur cette démarche qui se voulait expérimentale et qui a fonctionné. Il faut dire que ça s'est fait assez vite, puisque vous étiez venu à une visite et puis ça s'est déroulé 6 mois après, peut-être, hein,
voilà,
quelque chose comme ça.
6 mois après.
Bon. On a d'autres exemples, d'ailleurs, de rencontres comme ça, inattendues, qui débouchent. Hein. C'est le projet Plastil avec Audacy, puisqu'on récupère une partie du vêtement que l'entreprise CDA Développement réincorpore ensuite dans la matière première. Et dans les perspectives d'avenir, on a une artiste en résidence qui va arriver début septembre, Sophie Lolan, si je ne me trompe pas de son prénom, et qui sera en résidence dans l'entreprise, et grâce au FRAC Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, ça débouchera sur une nuit blanche de la créativité dans l'entreprise, le 17 septembre. Merci Céline. Donc on vous tiendra au courant, bien sûr, sur cette initiative qui vise à décloisonner et à casser un peu les silos et à faire sortir chacun un peu de son silo dans lequel il fonctionne.
Silo, parce que les freins étaient quand même nombreux. Hein. Le plus gros des freins a été mon directeur artistique qui n'envisageait pas de faire pratiquer les élèves de l'élite française des musiques classiques au sein d'une entreprise industrielle. Voilà. Et même des artistes, alors dans une autre activité que j'ai, où j'ai fait intervenir des artistes dans une entreprise, ils m'ont dit que ça les a dérangés de venir pratiquer leur art dans une entreprise. Voilà. Mais si ces artistes-là ne vont pas vers ce public d'entreprise, on reste dans l'entre-soi, on reste toujours avec les mêmes publics, la même sphère qui assiste au concert. Donc c'est vraiment important d'aller décloisonner, pousser les portes et les murs. Voilà. Et l'acoustique était vraiment très bonne dans l'entreprise. On avait mis tous les moyens qu'il fallait pour. Et c'était vraiment un très beau moment artistiquement, musical et de haut niveau.
Donc, expérience à poursuivre, à encourager dans d'autres lieux, d'autres moments, d'autres circonstances.
Voilà.
Merci. Je vais donc demander à monsieur le représentant du réseau Rachi, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, donc Pedro Ferrandiz, de venir nous parler là aussi de l'importance du son, de la musique, je ne sais pas comment, je laisse le qualifier. En tous les cas, j'avais rencontré une des personnes de ce groupe au Salon international de l'agriculture à Paris et ça m'avait paru suffisamment intriguant pour lui demander de venir nous en parler en Poitou-Charentes. En Nouvelle-Aquitaine maintenant, pardon.
Bonjour à tous et à toutes. Musique et territoire. Je vais vous passer deux petits reportages. Sachez qu'en Charente, dans la région de Cognac, on a 5 viticulteurs qui utilisent nos systèmes. Donc la musique dans le territoire vraiment est déjà une réalité. Ils sont en France 200 agriculteurs à l'utiliser sur à peu près 1500 hectares. Une histoire de son. Moi, je sais pas dire. Le son. A priori, il est à 100%, mais ça ne doit pas sortir. Thank you.
demain dans votre potager. C'est peut-être grâce à cette musique que vous entretiendrez vos cultures, comme c'est le cas pour ce maraîcher des Alpilles. Cette boîte diffuse d'étranges notes, pas pour les oreilles humaines, mais pour ses légumes.
Ça, c'est des protéodies. Donc je m'en sers pour lutter contre le virus de la mosaïque, qui est un fléau dans la culture de la courgette. C'est plus qu'étonnant, mais bon, le fait est c'est que ça fonctionne. J'ai beaucoup moins de virus que ce que j'avais auparavant. Donc pour moi, ça fonctionne même très bien.
Il y a 10 ans, ce maraîcher a failli tout perdre.
Bonjour.
À l'époque, ces courgettes sont atteintes du virus de la mosaïque. Une maladie qui déforme les légumes et les rend invendables. Aucun traitement n'existe. Gilles est au bord de la faillite.
C'était une grosse catastrophe, franchement. J'étais obligé d'arrêter, de changer de culture, parce que ça poussait plus. J'arrivais plus à tirer de revenus des courgettes.
Le maraîcher entend alors parler d'une nouvelle technologie de soins par la musique. Prêt à tout pour sauver son exploitation, c'est à l'époque le premier agriculteur à tenter l'expérience. Miracle, les protéodies semblent peu à peu faire effet et la maladie recule. Pour la première fois l'année dernière, aucune courgette n'a été atteinte par le virus. Presque trop beau pour être vrai.
La musique pour déstresser les plantes, c'est reconnu. C'est reconnu, mais après, pour les maladies, il y a encore... Et moi, j'ai du mal à y croire, mais on va garder la musique quand même.
De la musique pour remplacer les pesticides, c'est l'invention en apparence farfelue d'un docteur en physique quantique à Paris. Selon Joël Sternheimer, les ondes sonores de ces protéodies stimulent ou inhibent la création de protéines par les plantes, leur permettant de se défendre face au virus.
Voilà. C'était quoi ça?
Ben ça, en fait, c'était l'inhibiteur d'une protéine d'un champignon symbiote du soja.
Protégé par plusieurs brevets européens, son invention est aujourd'hui commercialisée partout en France.
C'est une protéine respiratoire.
Hop, c'est parti.
Dans le Bordelais, une quarantaine de viticulteurs utilisent les protéodies pour lutter contre l'esca, une maladie qui attaque les pieds de vigne. Un jour peut-être, les jardiniers amateurs se convertiront eux aussi à cette drôle de musique qui soigne les plantes.
Et un petit deuxième, qui est aussi court.
Et si la musique aidait à soigner les plantes? Eh oui, quelques notes et mélodies bien choisies pourraient permettre à certaines cultures de résister à des maladies ou même à mieux grandir. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Anne-Charline Lambard et Noé Salem.
Sur les terres bretonnes, de drôles de sons supplantés par endroits le traditionnel biniou. Des compositions diffusées plusieurs fois par jour par ses boîtes à sons. Au milieu de sa serre, Gwenaëlle Floch en a installé une pour sauver son exploitation bio. L'année dernière, un virus, celui de la mosaïque du concombre, avait alors tout décimé.
En l'espace de 4-5 semaines, le virus avait emporté cette culture. Et donc pour l'instant, je trouve qu'elle se comporte plutôt bien.
Équipée depuis mars dernier, Gwenaëlle voit bien quelques feuilles avec des traces de décoloration, signe de la présence du virus. Mais la plante résiste et produit de bons concombres. La protéodie, nom de ce traitement mélodique, n'est pas l'œuvre d'un mélomane. Elle est basée sur un fait. Lors de la synthèse de protéines, des acides aminés émettent des fréquences, des mélodies qui peuvent stimuler ou inhiber une protéine.
C'est quand même assez dingue de se dire que la musique peut interférer dans la synthèse des protéines et le développement des organismes.
À l'université de Cergy-Pontoise, des chercheurs s'intéressent au pouvoir de ces sons. Dans différentes salles sans lumière, Pedro Ferrandis, cofondateur de l'entreprise qui commercialise le procédé, installe ses diffuseurs.
Là, c'est calé. À partir de ce soir, il sonnera à 3h du matin.
L'objectif ici est de tester la résistance des petits pois à la sécheresse.
L'idée, c'est effectivement que le pois tolère mieux le stress hydrique à l'aide de ces diffusions.
Les petits pois en place, quelques jours et des minutes de Mélodie plus tard, ils vont livrer leur verdict.
Dans son petit pois planté la semaine dernière, et qu'est-ce que ça donne? Ça a bien poussé en tout cas.
Ça a plutôt bien poussé, ouais, ça a l'air plutôt bien mangé.
Mesurer, peser, les sons auraient eu un effet sur les petits pois.
C'est bon.
Pensez qu'il y a un effet significatif.
Alors, on ne pense rien, parce qu'on ne fait que travailler en tant que scientifique sur des résultats concrets, abstraits, et on a mesuré des différences qui sont significatives. Ce sera l'objet de la publication qu'on est en train de faire.
Jean-Michel Robin utilise le procédé depuis 4 ans. Sur ses 16 hectares de culture maraîchère, la musique a tout changé.
Au début, j'ai pris M. Pedro pour un charlatan. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais maintenant, je m'en séparerai pas. J'ai quand même 5 appareils, je m'en sépare pas.
Pour les salades, 11 minutes de stimulation sonore 3 fois par jour suffisent.
Pas de midiou, pas de puceron. La plante est stimulée. La plante va se défendre elle-même.
Jean-Michel ne craint plus les maladies. Il a gagné en sérénité et surtout économisé. Il n'utilise presque plus de pesticides.
Maintenant, il y a de rester 10%. Sauf qu'on utilisait. Oh ouais, c'est très minime. Très, très, très minime.
Pour Jean-Michel, ces mélodies spécifiques sont une alternative aux produits chimiques. En France, plus de 130 agriculteurs utilisent la méthode dans des vignes, des élevages de porcs ou de vaches laitières. Sur toutes les gammes, ils expérimentent le pouvoir de la musique.
Voilà quelques petits témoignages en fait, de ce qui est fait aujourd'hui sur le terrain. Depuis 10 ans, 11 ans, depuis 2008, en fait, on a créé la société Genodix pour montrer sur le terrain la pertinence de cette approche. Vous avez vu dans le premier reportage Joël Sternheimer, donc l'inventeur, le physicien à l'origine de ces travaux. De manière très, très synthétique, le terme, ces travaux explicitent le fait que déjà au niveau de la matière, il y a des structures musicales qu'on retrouve dans le vivant. Et on sait reproduire aujourd'hui ces structures musicales et ainsi interagir, en fait, c'est dialoguer avec le vivant pour justement, par exemple, dans les applications que vous avez vues, prévenir des maladies, limiter les intrants, aider les plantes, les végétaux à résister au chaud, au froid, par exemple, ou au manque de soleil. C'est les applications qu'on mène aujourd'hui. Mais naturellement, les champs d'investigation et d'application sont sur le vivant, sur l'humain, sur... la médecine, j'espère un jour, s'y intéressera. Alors, protéodie, c'est un terme que Joël a défini, et ça vient de protéos, primordial, et musique, et ode, musique primordiale. Musique du vivant, on pourrait dire aussi. Pour essayer de raconter à ma façon, bien sûr, un peu l'histoire, il travaille pour Louis de Broglie, le prix Nobel de physique. Il travaillait. En fait, il est en train de passer sa licence de physique dans les années 60, 63, 64, je crois. Et de Broglie a l'intuition, ou du moins pour lui. Les particules élémentaires, donc c'est les particules qui composent les atomes, les plus petites particules connues, ont une régularité. Les masses de ces particules présentent une régularité. Et vous cherchez à la caractériser. Et il a mis Joël Sternheimer sur le sujet. Ils ont d'ailleurs fait, De Broglie a publié un papier en 64 sur les premiers travaux de Sternheimer. Il est parti aux États-Unis pour suivre ses études sur le sujet. Bon, c'était la guerre du Vietnam, mais il a fallu qu'il revienne. Et il a poursuivi de manière indépendante. Et c'est dans les années 80 qu'il s'est aperçu en fait que la régularité qu'il avait conceptuellement écrite sur une équation entre les masses des particules élémentaires, ces particules élémentaires avaient entre elles des rapports musicaux. Les fréquences associées à chaque particule avaient des rapports entre elles musicales. Bon, voilà, c'était...
déposait un brevet, il creusait cette question. Et c'est dans un deuxième temps qu'il est venu à regarder ce type de phénomène, on va dire, au niveau du vivant, au niveau de la synthèse des protéines. Et de s'apercevoir que les acides aminés qui composent les protéines, les masses associées à ces acides aminés, en l'occurrence les fréquences associées aux masses de ces acides aminés, ont des rapports musicaux. Alors, c'était quand même original de trouver de la musique dans la structure même, dans la base même du vivant. Qu'est-ce que ça signifiait ? Bien sûr, il ne le savait pas. Il était musicien, donc il s'est dit, je vais prendre une protéine, c'était le début du séquençage. Une protéine, c'est imaginer un chapelet avec 20 perles possibles. Il peut y avoir des centaines de perles dans ce chapelet. Et à chaque perle, ça correspond à une note. Donc c'est une protéine. Il a fait cet exercice de transformer la succession des acides aminés d'une protéine en succession de notes. Et s'est aperçu que ça donnait quelque chose de musical. Voilà, une structure vraiment musicale à part entière. Hein, des thèmes, un développement du thème. Voilà, de la musique comme on l'entend, quoi. Et dans un troisième temps, de s'apercevoir en fait qu'il y avait des effets physiologiques. Ce qu'on sous-entend en fait, c'est qu'au niveau du vivant, quel que soit l'organisme vivant, il y a des mécanismes ondulatoires au niveau de la synthèse des protéines qui participent de leur régulation. Et en reproduisant ces mélodies, on arrive à participer, à dialoguer avec le vivant. Ainsi, prévenir des maladies, en fait, on rééquilibre les relations entre un champignon, soit dit pathogène, avec une salade, par exemple. Où on stimule la production de protéines de défense sur la vigne, où on stimule la production de protéines de résistance à la chaleur sur les petits pois. Je ne sais pas si c'est assez clair. Bonjour. Hélas non. Alors au niveau, c'est un ensemble. Pourquoi ? Je sais, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une science, on l'appelle une science. Voilà, on appelle ça la génodique, qui relie mécanique quantique, qui relie biologie et qui relie musique. C'est des secteurs qui n'ont pas l'habitude de parler, et toujours pas, quoi. Alors, la relation de la musique avec le vivant, elle commence à travailler sous d'autres angles dans le monde, en Chine en particulier. Des applications, ce sont des fréquences élevées qui sont utilisées pour prévenir des maladies. Mais il y a des travaux qui ont été faits par des chercheurs italiens depuis plusieurs années, Marcusso, je crois, une chercheuse australienne aussi, qui a publié sur le sujet. Donc il y a quand même pléthore de documentation sur, voilà, les plantes sont sensibles. Là, il y aurait une clé, c'est pas seulement les plantes, c'est le vivant. Et c'est ce qui est c'est encore plus... on arrive à dialoguer avec un virus, ça peut paraître dingue de dire ça, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Chez Gilles Josuian ou chez Gwenaël Flock, bon, ils avaient des virus, ça arrive dans les cultures. Hein, quand on est en monoculture, ça arrive d'autant plus, parce que voilà, c'est comme ça. Le virus n'a pas disparu. Mais en fait, il y a un dialogue qui se réinstaure. Voilà, la maladie, on la voit différemment. On n'éradique pas le virus, en fait. On apprend à la plante à vivre avec.
Il y a la notion d'accord, d'ailleurs.
Il y a cette notion d'accord, voilà. Alors là, il faudrait rentrer encore plus dans la base physique. je suis loin d'être expert. On diffuse une reproduction des fréquences associées à ces protéines, mais bien sûr, on diffuse ça dans une échelle qui est la nôtre, l'audible. C'est pas l'échelle de la cellule, ça va de soi. C'est pas l'échelle des fréquences non plus. Des acides aminés. Joël a émis l'hypothèse qu'il y a des relations entre échelles. Il parle de rapports d'échelle, d'ondes d'échelle qui véhiculeraient ce type d'information. Donc il a résolu une équation qui rend compte mathématiquement de cette onde d'échelle. qui relie les différents niveaux d'organisation de la matière et du vivant. Et cette onde d'échelle, en fait, pour résoudre cette équation, en fait, il a dû introduire la dimension de sujet. Pour lui, c'est le sujet qui résonne. Le sujet, c'est pas tout à fait le même que l'observateur dans l'image de la mécanique quantique, mais s'y rapproche. C'est pas le sujet conscient Pedro Ferrandiz, mais c'est vraiment, il y a du sujet dans la matière. Et du coup, il y a du sujet dans un virus, du coup, il y a du sujet dans une plante, il y a du sujet dans cette chaise, il y a du sujet partout. Et c'est un dialogue entre sujets. Du coup, quand on cherche à inhiber un virus, il faut qu'il soit d'accord. Voilà.
D'autres remarques, d'autres réactions ? Peut-être en attendant, peut-être aussi nous dire, la société Géonodics a une antenne, je crois, à Bordeaux. Oui. Par rapport aux interventions, puisqu'on est concerné, la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous pouvez en dire un mot ?
Oui. Une petite structure. On a monté Géonodics, comme je vous le disais, pour montrer sur le terrain, la pertinence de l'approche. On va voir des agriculteurs avec différentes problématiques. On travaille aujourd'hui sur une cinquantaine de problématiques. Les deux tiers de l'activité sont en vigne et le dernier tiers en maraîchage et en arboriculture. En Grande-Aquitaine, c'est essentiellement la vigne. Ils représentent à eux seuls les deux tiers de nos installations en vigne. Il y a 130 appareils. On travaille chez près de 150 clients vignerons en Grande-Aquitaine. Sur Cognac également, il y en a une petite dizaine chez qui on travaille. Et donc la structure Géonodics Aquitaine distribue et accompagne les clients, les installations en fait, dans la région. De la Charente jusqu'au Gers, ça déborde un petit peu de la Grande-Aquitaine. Si vous voulez les noms des vignerons de Cognac, je peux vous les donner. Voilà.
Je voulais savoir, vous avez parlé de la Chine qui travaillait sur le sujet et d'autres pays. Comment est-ce qu'il y a à un moment donné des travaux qui sont conduits ensemble
Pour tout ça, aujourd'hui, aussi bien à travers le réseau associatif de chercheurs indépendants qu'on a fait ça sans moyens, en fait, pas avec nos moyens. Géonodics, on l'a créé avec des amis intéressés par le sujet qui avons financé le démarrage, je dirais. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui en France l'investissement nécessaire sur le sujet pour simplement nouer un partenariat avec un laboratoire à l'autre bout du monde. C'est triste.
Et en France, vous avez des concurrents, entre guillemets, il y a d'autres gens qui...
On est les seuls au monde à faire ça.
Au monde ? Et vous êtes à Poitiers, avant d'être France.
Et on est à Poitiers. On est au Québec, on a une installation au Québec, une au Maroc, une en Argentine. Après, c'est essentiellement en France.
Alors, moi, j'avais une petite question sur la vigne, sur l'ESCA, par exemple. Vous regardez un peu les taux de mortalité et de survie. Est-ce qu'il y a d'autres investigations qui sont mises en place pour essayer de voir un peu l'effet de ces approches sur le champignon ?
Alors, on commence. Pour travailler sur une problématique comme l'ESCA ou tout autre, on va s'appuyer sur la bibliographie. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que vous parlez d'ESCA. L'ESCA, ça a été pour nous, c'est la plus grande sur les 300 installations, 220, je crois, sont sur l'ESCA. Et c'est en 10 ans, c'est sur celle-là qu'on a récupéré le plus de données. On a plus de 300 notations de mortalité, en l'occurrence, comparative avec et sans protéodie. Et là, on est à 70% de baisse de mortalité en moyenne. Donc, on a une preuve de concept terrain. Et pour répondre à votre question, on commence, alors on le préjugeait, mais maintenant on commence à avoir des données du point de vue qualitatif. Il s'avère que les moues qui sont issues de raisins qui ont écouté les moues, c'est qui ont écouté entre guillemets les diffusions, sont plus riches en protéines, ce qui facilite les fermentations, notamment chez ceux qui ne levurent pas. On a des données qui montrent de manière comparative que les raisins, mais aussi les bois, présente un niveau de resvératrol beaucoup plus élevé. On a des dosages qui montent 70% de resvératrol en plus entre des lots comparables avec et sans diffusion. Le resvératrol, en fait, la défense qu'on stimule est une protéine impliquée dans la lignification et la synthèse de resvératrol. Donc c'est pas, voilà, c'est des éléments sur lesquels on commence à avoir des données. Après, et ça depuis le début, on distinguait du point de vue organoleptique une appréciation supérieure quand il y avait des diffusions. Mais ça reste encore à caractériser factuellement. Quoi.
Et donc, en fait, quand vous parlez de recherche du coup indépendante, par rapport à la recherche, on va dire laboratoire, leur réticence un petit peu à aller un peu vers ces travaux ou autres, j'imagine qu'il y a des formes un peu, où, comment vous l'expliquez un peu, qu'est-ce qui...
C'est okay. Le manque de... Bon, après, je n'ai pas l'explication.
Ouais, sans faire de procès de la recherche voilà, c'est académique, on va dire. Mais
L'INRA nous connaît.
Ouais.
Il nous connaît parfaitement. Après, dans l'équipe d'INRA, il n'y a pas de physicien. Quand je vois un physicien et je lui parle de biologie, ça ne l'intéresse pas. Quand je vois un biologiste et je lui parle de physique quantique, il n'y comprend rien. Je suis biochimiste, hein, j'y comprends rien. Donc ce n'est pas une tare. Voilà, je pense qu'il manque... Il manque d'interdisciplinarité. Là-dessus, on met une petite couche de musique. On en perd beaucoup. Hein.
Et par rapport, on va dire, par exemple, au ministère de l'Agriculture sur des problématiques d'homologation ou des choses comme ça, quel regard ils vont porter sur...
Alors, sachez que quand on a commencé... Sachez. Parce que... Bon, on nous a regardés, on nous a suivis. On s'est pris un contrôle de la DGCRF trois ans après avoir démarré pour vérifier si on n'était pas des charlatans, quoi, si on n'était pas des escrocs. Quoi. Bon, ils sont aperçus que ce qu'on écrivait sur nos contrats aux vignerons avec qui on travaillait, c'est bien ce qu'on faisait et on respectait ce qu'on disait. Et ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, mais ça n'empêche que... Voilà. Bon. Alors, non, il n'y a pas de homologation nécessaire, tout simplement parce qu'on est dans du physique. Il n'y a pas de matière.
Il n'exige pas une procédure d'homologation comme ça pourrait être sur un...
En fait, on ne peut pas homologuer... il faudrait homologuer les champs des oiseaux.
Mm-hmm. Oui, il pourrait exiger de revendiquer un effet montré par rapport à...
Il n'y a pas de matière.
Il y a
un changement de paradigme à avoir en termes de... Là, il n'y a pas de matière. Information qu'on donne. Alors bon, voilà.
Non, je pose la question, je veux dire, moi, au début des années 2000, j'ai bossé pendant 5 ans sur une petite société qu'on avait créée, avec des approches un peu alternatives, et notamment une partie un peu sur la vigne, sur les licitations de défense naturelle. Mm-hmm. On a jeté l'éponge au bout de 5 ans, parce qu'en fait, là, on était sur des produits.
C'est la difficulté que vous avez.
Où on pouvait monter un dossier toxicité, tout ça. Mais le souci, c'est qu'on est dans une procédure d'homologation classique et qu'en gros, on veut qu'on fasse le produit référent, un triazole ou autre, et puis on vous demande en fait de montrer l'efficacité de votre produit par rapport à cette référence. Quoi. Et là.
Parce que vous êtes soumis à autorisation de mise
sur le marché. Oui, on était soumis à autorisation de mise sur le marché.
Voilà. Tout processus physique, tant qu'il n'est pas ionisant, n'est pas soumis à autorisation sur le marché.
Et il y a peut-être après, si ce n'est pas au niveau de la recherche, il y a peut-être dans les bureaux interprofessionnels ou des choses comme ça, des personnes qui seraient plus à l'écoute.
Alors il y en a. On travaille, on a une exploitation avec un responsable. D'ailleurs, M. Badier, en Touraine, suit depuis 7-8 ans une installation. Mais bon, ça, c'est long.
Parce que par exemple, sur les maladies du bois, le BNIC, là, ils viennent de recruter une petite jeune là, qui est en train de mettre en place un petit peu des outils pour estimer un peu, parce que souvent, quand on se rend compte que les champignons sont là, il est trop tard, voilà, et pour essayer de développer des outils pour voir un peu la présence du champignon avant qu'il soit trop tard, quoi. Et ça peut être des personnes qui seraient peut-être plus ouvertes à regarder. C'est des approches de PCR quantitative, voilà, pour aller regarder un peu dedans.
Nous, on est vraiment ouverts...
Chloé Cardon, elle s'appelle, cette jeune personne qui est... qui a été recrutée il n'y a pas longtemps. Là. Et je sais, elle a travaillé sur les maladies du bois. Elle a été recrutée par le BNIC par rapport à ces problématiques-là. Quoi, en fait.
Nous, ce n'est pas notre spécialité. C'est peut-être ça aussi notre problème, c'est qu'on n'est pas vigneron. On n'est pas du métier. Ouais. On arrive... Tous nos données, on a partagé avec l'INRA de Bordeaux, M. Lecomte, avec l'ITV de Montpellier, M. Comment s'appelle-t-il, La Réunion, les deux grands spécialistes en France. Ils connaissent parfaitement nos travaux. Bon, ils n'ont pas daigné aller voir sur le terrain. Quoi. C'est comme ça.
Alors, d'abord une petite boutade. Donc, donc vous avez fait un dépôt de brevet.
Il y a eu un brevet, oui.
Ou c'est des droits d'auteur et on paye à SACEM.
Alors, en fait, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est des droits d'auteur.
Parce que voilà.
C'est des droits d'auteur.
Et quelque chose de plus sérieux, mais...
Non, mais c'est pour le... Alors, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Les droits d'auteur, bien sûr, il y a l'aspect commercial, mais il y a d'abord le droit moral d'utilisation dans le droit d'auteur. C'est ce qui caractérise... Et à l'égard de cette approche, c'est fondamental. Le droit moral de ne pas pouvoir reproduire, ne pas avoir le droit de reproduire sans l'accord de l'auteur, reproduire ses mélodies. Ça sous-entend, en fait, c'est la précaution vraiment première qu'il y a à l'utilisation des protéodies. Ça ne s'utilise pas comme ça. C'est pas anodin du tout, quoi. C'est vraiment pas anodin. Donc, c'est pour ça que c'est assez étonnant. La seule facilité qu'on a, c'est des musiques. Du coup, on a une protection qui est couverte sur 183 pays qui ont signé l'accord de Berne, je crois. Il y a ce droit moral qui est vraiment proche du fondement du travail. Bon, pour la boutade.
Voilà. Et quelque chose de plus sérieux, mais je ne sais pas voilà, si vous pourrez répondre, mais c'était pour rejoindre un petit peu la conversation qu'on a eu tout à l'heure. Donc, la genèse de cette idée, donc c'était au niveau atomique, au niveau des atomes, enfin des particules.
Des particules.
Même, particules. Là, on est dans le monde vivant. Est-ce qu'il y a eu justement des études faites, un peu entre les deux, au niveau des cristaux, c'est-à-dire qu'en envoyant des signaux, des mélodies, sur de la matière en train de se cristalliser, est-ce qu'on peut sélectionner comme ça des cristaux d'un type ou d'autre? Enfin, une question vraiment de curiosité.
Joël Deck, voilà. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la synthèse des protéines. Le vivant est tellement... Il a fallu en fait tout comprendre. Entre quelques secondes et une minute de diffusion d'une même protéodie, d'une même séquence, c'est le jour et la nuit en termes de réponse. Et c'est valable par protéine. Donc c'est un travail... On a travaillé sur 1500 protéines aujourd'hui.
Non, mais c'est bon. Pas...
Non, on a...
Voilà, c'est pour voir, voilà, c'est pour curiosité, s'il y a eu des... Que vous sur les...
Non, les sur d'autres. Il y a des rapports d'échelle entre particules. On retrouve des structures harmoniques au niveau de la particule élémentaire. On retrouve des structures harmoniques au niveau de la synthèse des protéines. Il y en a certainement à d'autres niveaux. Voilà, si c'est une loi physique et c'est un variant d'échelle, il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas ça ailleurs, quoi, dans les étoiles.
Ça a été découvert. D'autres questions? Peut-être nous dire aussi concrètement, ça se passe comment? Je suis vigneron, ça m'intéresse, j'ai un programme, je dois y penser tous les jours. Comment ça se passe?
Pour des applications comme l'ESCA ou le Cournouet, par exemple, on met à disposition des diffuseurs qui couvrent de 10 à 15 hectares. Ils sont programmables. On le démarre au début de saison, on éteint en fin de saison et on compte.
Merci.
Donc c'est somme toute assez simple de mise en œuvre, quoi.
Donc quand la mélodie, enfin il y a uniquement c'est à l'échelle des plantes, nous on entend, enfin la fréquence humaine, on entend.
Si
on peut l'entendre aussi.
Ah ben on l'entend. Ce que vous avez entendu, c'en est des fragments. Alors sélectionnés, c'est pas anodin, il faut faire attention.
J'ai pas fait trop attention, du coup j'étais d'accord. Donc on l'entendait dans le reportage.
Quelques petits fragments. Ouais.
D'accord. Et les musiciens, vous avez fait écouter à des musiciens leur réaction, est-ce que.
En fait, ça dépend de la protéine. Ça dépend. Elles sont très différentes. Vous pouvez avoir des séquences très 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 très, on va dire, rythmiques, d'autres très mélodiques. D'accord. C'est vraiment propre. Il y a un spectre.
D'accord.
très varié. Alors, on parlait de musiciens, on a fait l'exercice inverse. Prendre des musiques composées par l'homme,
oui,
des chants d'oiseaux, et retrouver des morceaux de protéines dedans.
Et
eh bien, par exemple, le thème du printemps de Vivaldi, des quatre saisons du printemps de Vivaldi, le... Ta-lain, ta-lain, ta-lain. Non, j'aurais pu faire un exercice, je l'avais, mais c'est pas grave. On le retrouve dans une protéine qui s'appelle l'actine. Alors, les vertébrés, on a ça dans nos muscles, mais chez les plantes, c'est une protéine de structure. Et en fait, c'est la protéine la plus produite au printemps. Et c'est... voilà. On a plusieurs exemples de cette nature où au Solemio, il a été composé devant un champ de tournesol, à Odessa, bon. Et bien, à l'intérieur, on trouve une ATP6 synthase de tournesol.
D'ailleurs, pour faire un pont entre musique, créativité, il y a un groupe, alors je ne sais pas s'il existe toujours, Albi, qui s'appelait c'est un groupe de recherche musicale et qui travaillait par exemple sur la fermentation du vin, qui enregistrait cette fermentation et qui le transformait en musique. Okay. Plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, chez Jean-Marc, c'était un peu aussi notre idée, d'entendre les bruits de l'entreprise pour les transformer, si j'ose dire, en schéma un peu musical. Voilà, on peut trouver des alliances pour essayer de justement d'aller dans cette relation un peu plus forte.
Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des... Enfin, c'était pas anodin, en fait, ces fréquences. Mais, et du coup, les vignerons qui, eux, sont tous les jours dans leur vigne, ou est-ce qu'ils ont senti une différence, eux, sur... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des impacts sur eux ou pas? Est-ce
que... la précaution veut qu'on... Alors, en termes de diffusion, c'est 2 à 3 diffusions de 5-10 minutes par jour. Et donc, on s'arrange à diffuser à 6h du matin quand il n'y a personne, et à 19h quand il n'y a personne, ou à midi s'ils sont en train de manger, ou à... Voilà.
Ça,
c'est la précaution de base, quoi.
Parce que concrètement, il peut y avoir une incidence sur l'homme, sur...
Oui, oui, c'est pas anodin. Alors, les séquences qu'on utilise, on les a vérifiées, on les a éprouvées, je dirais. On a un outil, d'ailleurs, pour ça. Et lors de l'installation, on fait écouter au vigneron, et ça lui plaît ou ça lui... Si ça lui déplaît, j'ai pas eu le cas, bah on enlève, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On change de playlist. Pour certaines problématiques, oui. Après, souvent, dans chaque problématique, en fait, pour chaque problématique, on va avoir 4-5 séquences. Il y en a peut-être une qui peut tiquer. Bon, je peux peut-être enlever celle-là. Voilà.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, c'est la journée un peu chaude. Donc, normalement, le bâtiment, enfin, l'espace management se ferme à 16h30. Donc, on sera dans les délais. Mais on a une petite visite, je crois, justement, sur le thème musical avec le groupe.
En fait, le pôle de création numérique de l'espace Mendès France, le lieu multiple, donc il y a une installation sonore, Frequency, et donc il nous proposait d'aller visiter l'installation, donc, qui est dans la salle d'à côté. Donc voilà.